On avait parlé de l'évolution du pouvoir impérial qui avait donc suscité un certain nombre de persécutions nouvelles pendant toute cette période du IIIe siècle, à la suite de l'effondrement de l'Empire romain. Il avait fallu le restructurer et le restructurer autour de cette idée que il devait y avoir un lien qui devait unir tous les membres de l'Empire autour de l'empereur. Et ce lien, c'était un lien religieux. Les empereurs de cette période avaient tenté non pas ce que l'on pourrait appeler un monothéisme, mais plutôt un énothéisme, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les différentes divinités qui étaient adorées dans l'Empire romain sous l'adoration d'un principe unique, d'un principe divin unique, qui était celui du Sol Invictus, le soleil invaincu, dont on célébrait la fête à partir de cette période-là, le 25 décembre, c'est-à-dire au moment du solstice d'hiver. Et dans ce cadre, les différentes religions qui formaient l'Empire romain avaient place pour peu qu'elles reconnaissent le culte du Sol Invictus qui était assimilé avec l'empereur. L'empereur était considéré comme étant d'essence divine, sinon Dieu lui-même, et par conséquent, il était nécessaire de lui apporter un culte, ou du moins en travers du soleil, eh bien, c'était une sorte de dommage quasi divin qui était rendu à l'empereur. Et le choc entre le christianisme et le paganisme finissant a eu pour raison principale cette impossibilité des chrétiens d'adorer un autre Dieu que le Seigneur, l'éternel Dieu, et de reconnaître un autre Seigneur que Jésus-Christ. Et l'affirmation César est Seigneur, qui était le cri de ralliement de l'empereur romain, de l'Empire romain, était absolument impossible pour eux. Alors, en 250, une première persécution de grande envergure a eu lieu sous Décius. Et cette persécution, pour la première fois dans l'histoire de l'Empire romain, a été une persécution systématique et générale. Je crois que nous en avions parlé quelque peu la dernière fois, mais j'y reviens. Jusqu'alors, les persécutions étaient limitées géographiquement, soit à la capitale elle-même et les environs immédiats, par exemple à l'époque de Néron, en 63, la première grande persécution, soit par exemple la persécution de Lyon en 177, dont nous avons parlé ensemble, qui intéressait uniquement Lyon et les villes avoisinantes, mais il y avait possibilité, lorsqu'une persécution se déchaînait dans un endroit de l'Empire, de fuir dans un autre endroit de l'Empire et d'être relativement tranquille. À partir de la persécution de Décius, il n'en sera plus ainsi, mais la persécution va prendre une dimension générale et systématique. Elle va intéresser tout l'Empire romain. Il n'y a plus la possibilité de se mettre à l'abri dans certaines régions éloignées de l'Empire romain. Jusque-là, les sbires de l'empereur vont traquer les chrétiens. Et le seul moyen d'échapper à la persécution sera de fuir les limites de l'Empire romain. Et cette situation va être poursuivie, plutôt cette tentative va être poursuivie par l'empereur Valérien quelques 10 ans plus tard. Comme la plupart des persécutions, elle aura 2 effets. Premièrement, un grand nombre de chrétiens attiédis et formalistes apostasieront. Donc il y aura une certaine épuration de l'Église qui se fait. Ne resteront que les chrétiens convaincus qui feront en sorte, comme le disaient les pères d'Église, que leur sang soit la semence de l'Église, convaincus, n'est-ce pas, par le témoignage que rendront ces martyrs, des païens se convertiront. Et au bout de quelques années, un nouvel empereur, Galien, sera obligé d'admettre l'échec de la persécution et de mettre fin à cette persécution. Et c'est alors, comme nous l'avons dit ensemble la dernière fois, que va s'introduire pendant la fin du IIIe siècle une sorte d'état de tolérance où les chrétiens vont devenir extrêmement nombreux, si bien que ils s'incrustent, ils pénètrent dans tous les rouages de l'Empire, dans l'armée, mais ce sera interdit logiquement à des chrétiens d'être acceptés que dans l'armée, l'administration romaine, jusque dans le Sénat et même la propre famille de l'empereur, si bien qu'arrivé à ce stade-là, les chrétiens s'imaginent que maintenant ils ont gagné la partie et qu'aucun empereur n'osera entreprendre à nouveau une persécution parce que maintenant les chrétiens sont devenus trop nombreux. En fait, c'est un mauvais calcul car Dioclétien va réagir d'une manière tout à fait inattendue. D'abord parce que dans sa propre famille, sa propre femme et sa propre fille se sont convertis au christianisme et convaincus par les cultes païens qui l'entourent, il va prendre la décision de déchaîner une nouvelle fois la persécution. Et ce sera une des plus violentes, des plus cruelles, des plus terribles persécutions. Ce sera la dernière d'ailleurs. La dernière persécution sera l'une des pires, sinon la pire. Toutes celles que le christianisme a dû connaître depuis sa naissance de la part des autorités romaines. Et à l'occasion de cette dernière persécution de Dioclétien, deux conséquences vont apparaître. D'abord, à nouveau, c'est ce problème qu'on retrouve à l'issue de chaque vague de persécution, la question des apostats. Les apostats, c'est-à-dire ceux qui, par crainte des tortures et des supplices, ont apostasié la foi, et qui, une fois la persécution terminée, veulent revenir dans l'Église, veulent se repentir, etc. Dans quelles conditions doit-on les accueillir? Et doit-on tout simplement les accueillir d'abord? C'est la première question. Est-ce que ces gens-là n'ont pas commis un péché irrémédiable et ne doivent-ils pas, pour que l'on conserve la pureté de l'Église, être définitivement écartés de l'Église? Ce à quoi un certain nombre d'autres théologiens et docteurs répliquent que s'il y a une repentance sincère, il n'y a pas de raison majeure à ce que ces gens-là ne soient pas accueillis comme le fils prodigue l'avait été. Seulement, le problème, c'est de tester justement la profondeur de leur repentance et la sincérité de cette démarche. Et pour ce faire, alors on a introduit un certain nombre d'épreuves que les apostats repentants par lesquels ils doivent passer pour donner les signes qu'ils sont réellement sincères et qu'ils sont seraient prêts éventuellement dans le cas d'une nouvelle persécution cette fois-ci à aller jusqu'au martyr. Et ce qui était au début logique et normal dans le cadre de ce que vous dit le Nouveau Testament, produisait des fruits dignes de la repentance, donc il y ait un temps d'époque pour ces gens-là, publiquement, était tout à fait logique et tout à fait normal. Mais parce que justement, on craignait de ne pas être suffisamment prudent vis-à-vis de ces gens-là, on a multiplié les épreuves. L'épreuve du temps ne suffisait plus. On a imposé un certain nombre de règles d'ascétisme à ces gens-là qui donneront la base à la notion catholique de la pénitence, c'est-à-dire un certain nombre d'épreuves, de mortifications, d'auto-punitions que l'on s'inflige ou que l'Église inflige pour expier un certain nombre de péchés. Et là, on introduit une notion qui aujourd'hui est encore dans l'Église catholique une notion importante, c'est qu'il y a la différence entre la peine éternelle et la peine temporelle. La peine éternelle, c'est le salut ou la perdition. Et ceci est du ressort de Dieu. Dieu sonde les reins et les cœurs, et en fonction de ce qu'il voit dans nos vies, pardonne ou ne pardonne pas la faute de l'apostat notamment, puisque c'est de l'apostat qu'il s'agit. Mais, à côté de cette peine spirituelle, cette peine éternelle que le Seigneur a seul la capacité de remettre, l'Église, elle, se doit de remettre la peine temporelle, c'est-à-dire d'imposer un certain nombre d'épreuves et de pénitences, d'actions de pénitence, on commence à employer le mot à cette période, pour que le péché, l'offense publique qui a été faite à l'Église puisse être pardonné et que le coupable puisse être réintégré dans la pleine communion. Et en développant cette notion qui part d'une base biblique juste, celle de l'épreuve dans laquelle le pécheur repentant doit être placé pendant un certain temps pour qu'il manifeste les fruits de la repentance, alors on ajoute toutes sortes de choses qui sont extra-bibliques pour arriver finalement à la notion que l'on retrouvera au XVIe siècle et qui sera le détonateur de la réforme, la notion des indulgences. L'indulgence part de cette idée que l'Église est habilitée à remettre la peine temporelle et pour cela d'imposer un certain nombre de peines au coupable pour que ce dernier puisse ensuite recevoir son pardon. Évidemment, à ce niveau-là, très très loin, bien sûr, de la notion biblique. Mais on voit comment on glisse insensiblement d'une notion biblique juste à une notion qui ne l'est pas. Deuxième hérésie qui apparaît dans l'Église officielle, cette fois-ci, à cette époque-là, comme conséquence de la persécution de Dioclétien, c'est le culte des reliques. Déjà, c'était amorcé à la fin du siècle précédent. Mais cette fois-ci, ce qui était finalement plutôt un culte spontané va devenir quelque chose maintenant d'officiel. Dans ce sens que, vous savez, tout commence avec les catacombes, même au 1er siècle, les restes des martyrs étaient pieusement enterrés et l'endroit, les catacombes où étaient enterrés ces martyrs, pour des raisons pratiques uniquement et non pas pour des raisons spirituelles, servait de lieu de réunion aux chrétiens persécutés parce qu'ils étaient assez difficile pour les sbires de l'empereur de se reconnaître dans ce dédale de tombes, et puis il y avait une espèce de crainte superstitieuse de la mort chez les Romains qui faisait qu'ils évitaient de s'aventurer dans ces cimetières, si bien que les chrétiens y tenaient là leur réunion. Très vite, on voit le danger, n'est-ce pas, de pratiquer des cultes autour, justement, des tombeaux des martyrs, des restes de ces gens qui avaient été suppliciés dans les arènes, etc. Et au IIe siècle, on se met à penser que les restes des martyrs suppliciés possèdent un certain nombre de vertus. On trouve par exemple les premiers ex-voto sur les tombes des martyrs, remerciement à tel martyr pour telle guérison par exemple, pour tel exaucement de prière. On pense que ces gens-là ont acquis auprès du Seigneur un certain nombre de mérites de par la mort qu'ils ont souffert, et qu'une partie de ces mérites peut être invoquée par les vivants, soit que ils aient les restes, le contact avec les restes des martyrs, les tombeaux des martyrs, puisse provoquer des miracles, notamment dans le domaine de la guérison. Et les ex-voto que l'on trouve à cette période-là sur les tombeaux des martyrs sont essentiellement des remerciements pour des guérisons. Et plus tard, on pensera que les martyrs ont la possibilité d'intercéder pour les vivants auprès de Dieu, et qu'ils ont la possibilité, par conséquent, d'avoir une audience plus importante auprès de Dieu. Et plutôt que de se tourner vers le Seigneur directement, on va se tourner vers ce que l'on commence à appeler dès lors les saints, pour leur demander d'intercéder auprès de Dieu en faveur des vivants. Les restes des martyrs, les ossements, notamment, ou les vêtements qui ont été les leurs, enfin les objets qui ont été les leurs, vont être qualifiés de posséder des vertus miraculeuses et un certain nombre de gens vont s'efforcer de s'emparer d'un certain de ces restes pour les porter comme porte-bonheur. Enfin, c'est un petit peu l'idée. La relique devient une sorte de talisman. C'est à partir de du 3e siècle, la fin du 3e siècle, de la persécution de Dioclétien, que l'Église, plus ou moins officiellement, reconnaît la validité de cette démarche. Et c'est à partir de cette période-là que l'on va commencer à, plutôt au siècle suivant, que l'on va commencer à construire les églises sur les restes des martyrs, sur les restes des saints. Au besoin, on prendra des reliques pour les enterrer sous l'autel, de façon à ce que l'église puisse avoir un caractère de sainteté très important, qui sera d'ailleurs l'Église étant dédiée à la personne dont les reliques sont enterrées à l'intérieur. Donc, si vous voulez, voilà la deuxième hérésie qui apparaît. Les saints sont donc des intercesseurs auprès de Dieu. Troisième hérésie qui apparaît également dans l'Église officielle au IIIe siècle comme conséquence de la persécution de Dioclétien, c'est la sacramentalisation. Et l'on voit très bien facilement, à partir du moment où l'on accepte que des objets matériels, des ossements de martyrs ou autres, puissent avoir une vertu miraculeuse en soi, il n'y a pas de raison pour qu'on s'en tienne là. Et naît alors dans l'Église du IIIe siècle et donc du IVe siècle l'idée du sacrement ex opere operato, c'est-à-dire que les actes du culte qui ont été institués par Jésus, notamment la Sainte Cène, que l'on commence à appeler l'Eucharistie d'ailleurs, n'est-ce pas, a une valeur en soi. Et que, indépendamment de la communauté qui se rassemble autour du pain et du vin, indépendamment de sa foi, indépendamment de sa sainteté, le sacrement opère. Le sacrement a une vertu qui lui est intrinsèque et qui ne dépend absolument pas de la foi de ceux qui le reçoivent, de la foi de ceux qui le distribuent, mais qui a une valeur en elle-même. Et c'est l'idée catholique du sacrement, telle qu'elle existe aujourd'hui encore, n'est-ce pas, qui apparaît ici à la fin du IIIe siècle, comme conséquence aussi de ces persécutions. Et là, nous voyons finalement que les persécutions n'ont pas toujours eu des effets positifs. Il y a, dans les moments de persécution, parfois, une espèce de fièvre qui s'empare du peuple de Dieu, d'une espèce de ferveur mystique qui n'est pas toujours très saine et qui parfois va développer des hérésies du genre de celles que nous avons vues ici, notamment lorsqu'il manque de docteurs pour corriger les choses sous l'effet du sentiment populaire qui se trouve soulevé, évidemment, comme on peut le comprendre facilement, par la foi et le témoignage des martyrs, et qui tente à mettre ces derniers sur un piédestal. C'est aussi l'époque où l'Église connaît aussi toute une évolution interne qui est loin d'être positive. Nous sommes déjà 3 siècles après la fondation de l'Église. Il y a déjà plusieurs générations de chrétiens qui se sont succédés. Il y a un accroissement numérique important du nombre des chrétiens, accroissement numérique qui est dû essentiellement à la faillite des religions païennes, à l'angoisse dont nous avons parlé ensemble la dernière fois devant la mort qui étreint l'homme du IIIe siècle, qui fait que le christianisme apparaît comme la réponse la plus cohérente à l'aspiration des hommes de cette période-là. Si bien que le christianisme est en plein essor sur le plan numérique, seulement le problème c'est que le nombre des chrétiens devient tel qu'il n'est pas toujours facile non plus de vérifier la profondeur de la foi personnelle de chaque chrétien. On ne suit plus en quelque sorte le mouvement. Les responsables, les pasteurs, les prêtres, etc., ne sont pas toujours à la hauteur, n'ont pas toujours la formation nécessaire, si bien que il y a, à côté de chrétiens admirables, il y a une foule de gens qui ne sont en fait chrétiens que de nom. Et c'est aussi le début du christianisme sociologique. De plus en plus, le christianisme tend à devenir un culte sociologique. Cela se traduit par un certain nombre de points. Tout d'abord par le laxisme. Le laxisme qui se caractérise par le fait que la sanctification qui est extrêmement soulignée dans les premiers temps de l'Église tend à passer au second plan. Il y a une mondanisation importante de l'Église, une mondanisation qui tient aussi au fait que, au début, les premiers chrétiens étaient essentiellement issus des milieux populaires. Donc, comme le disait l'apôtre Paul, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de gens importants selon les critères de ce monde. Mais au fur et à mesure que le christianisme croît, et notamment au IIIe siècle, nous avons vu que le christianisme atteint les classes supérieures de l'Empire, jusque les sénateurs et même l'entourage de l'empereur. Si bien qu'il y a maintenant des gens riches, des gens qui ont des positions sociales importantes, qui se convertissent au christianisme, et qui, auxquels, je dirais, précisément parce que ce sont des gens importants, on n'ose pas dire ce que l'on aurait dit à des gens qui auraient été de plus basse extraction. On accepte de leur part et on tolère de leur part ce que l'on n'aurait pas admis de gens plus simples. Sur le plan de la sanctification, par exemple, sur le plan d'une situation, par exemple, matrimoniale, sur laquelle on va fermer les yeux, qui n'est pas en règle, mais on va fermer les yeux parce que ce sont des gens riches, parce que ce sont des gens importants. Alors, il y a en même temps, n'est-ce pas, ces donnants-donnants, car l'Église a tout à gagner de l'introduction en son sein de ces gens riches et importants qui peuvent d'abord lui donner un caractère de respectabilité. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas ? La femme de l'empereur elle-même est chrétienne. Donc, si la propre femme de l'empereur se convertit au christianisme, c'est que le christianisme, c'est quelque chose de sérieux. C'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut embrasser sans crainte. Hein? Deuxièmement, les gens riches apportent leur argent, l'Église aussi en a besoin. Ça permet de construire déjà des édifices importants. Et ce n'est pas non plus négligeable. Et ce faisant, on est moins rigoureux, on est moins strict avec ces gens-là. Et à partir du moment où on est moins strict avec ces gens-là, on est obligé aussi de l'être avec les autres. Si bien qu'il y a un nivellement par le bas qui s'opère au sein de l'Église du IIIe siècle. Donc, une mondanisation importante, suivie d'une, ou plutôt accompagnée par une sécularisation qui ne l'est pas moins. Deuxièmement, comme ces gens importants sont souvent des membres de l'administration, de l'armée, etc., il y a une interpénétration de l'Église et de l'État qui s'opère, car ces gens, ces fonctionnaires, sont en quelque sorte les représentants de l'État. Il y a donc une imbrication des intérêts de l'Église et de l'État qui se fait par la force des choses. Et ici, je vous arrête parce que finalement, ça, c'est un problème. C'est un problème qui reste actuel, en fin de compte, qui reste le problème de l'Église de tous les temps. Celui justement de l'attitude à avoir vis-à-vis des gens importants, bien que la parole de Dieu soit très claire à ce niveau-là, il suffit de relire ce que l'épître de Jacques nous dit. Enfin, faites exception de personne, il vient au milieu de vous un pauvre homme, vous lui dites assieds-toi là-bas au fond de la salle, il vient un homme vêtu d'habits précieux, important, vous le faites asseoir à la première place, etc. Il ne faut pas que ce soit ainsi, mes frères, dit Jacques. Néanmoins, à toutes les époques, ce sera toujours la tentation de l'Église, et c'est toujours la tentation de l'Église de se glorifier, justement, d'avoir en son sein des gens importants et d'avoir ici, donc, un double critère pour les gens importants et ceux qui ne le sont pas. Et c'est souvent ainsi que l'Église dégringole, que les rebelles s'arrêtent parce que on a recherché des intérêts immédiats au lieu de venir chercher des choses importantes. Je crois que, en ce qui concerne ces choses, la Bible est très claire, mais ça a finalement été très peu appliqué. L'évangile est incompatible avec la possession de richesses importantes. Et l'homme riche, s'il se convertit vraiment, doit renoncer à ses biens. Et ça, l'Église a cessé de le prêcher à partir du IIIe siècle. Mais il est certain que dans les premiers temps, c'était la règle, c'était la norme. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et viens suivre. On ne peut pas être riche, au sens profond du terme, et en même temps être membre de l'Église. On ne peut pas pour soi-même, parce que les richesses sont un danger permanent spirituellement pour celui qui les possède. Et deuxièmement, c'est un danger pour l'Église. Les hommes riches sont un danger. Il suffit de voir, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, où beaucoup d'églises sont composées par des gens riches, justement. Et de voir la mondanité, la sécularisation, finalement, tout ce que l'Église du IIIe siècle avait connu. En ce qui concerne les gens importants, eh bien, il y a là aussi un problème. Et il faudrait vraiment que ces gens-là soient des gens extrêmement humbles, qui acceptent de faire abstraction de ce qu'ils sont sur le plan social pour se faire petit, pour se faire humble. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait faire doublement attention avant de confier les responsabilités à des gens importants au sens des critères de ce monde. L'histoire de l'Église du IIIe siècle a montré que l'Église du IIIe siècle s'est mondanisée, sécularisée à cause de cela. Seulement, arriver à ce stade qui est en même temps le point de départ de la civilisation chrétienne, du catholicisme. D'ailleurs, on commence à employer le mot à cette époque-là. Les bases de la civilisation chrétienne sont posées. Mais à cause précisément de cet éloignement de plus en plus évident des critères de l'Évangile, au sein de l'Église, qui reste encore quand même l'Église des martyrs, l'Église des hommes qui ont tout donné pour le Seigneur, un certain nombre de gens vont réagir. Et ils vont dire, ça ne va plus, l'Église est en train de dérailler, il faut revenir à la simplicité de l'Évangile. Et un certain nombre de réactions au sein de l'Église, au IIIe siècle, vont avoir lieu, qui vont être violemment contrées par les autorités officielles de l'Église, et classées comme hérétiques. Néanmoins, quand on étudie ces hérésies, entre guillemets, nous sommes obligés de constater qu'il ne s'agissait pas d'hérésies, mais de réactions extrêmement saines contre ce qui était en train d'être la déviation de la grande Église. Troisième ou quatrième siècle. Et ça commence au troisième. Ça commence même au deuxième siècle avec le montanisme. On a examiné un peu rapidement en son temps, sur lequel précisément, justement, nous allons revenir un peu, parce que nous avons là quelqu'un qui n'était pas toujours capable de comprendre. M. Casneuf, qui s'était introduit ce jour-là dans l'étude, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors bon, je vais être obligé d'un petit peu nuancer ce que je peux vous dire. Pourquoi j'aimerais revenir sur cette réaction montaniste, qui est une réaction qui est très importante. Les montanistes sont considérés jusqu'à aujourd'hui par l'Église catholique comme une hérésie. C'est tout à fait intéressant de voir d'ailleurs que les historiens protestants de l'histoire de l'Église ont emboîté le pas aux catholiques dans ce domaine-là sans prendre la peine d'examiner le bien fondé de ce que les catholiques ont appelé hérésie. Ce n'était effectivement pas facile d'apprécier à leur juste valeur les mouvements de réaction qui ont eu lieu dans l'Église à partir de la fin du IIe siècle jusqu'au siècle et plus, parce qu'on ne possède pratiquement pas d'écrits de ces gens-là, la grande Église les ayant fait disparaître. Par conséquent, nous ne savons d'eux que ce que disent leurs adversaires, ce qui évidemment est loin d'être impartial comme on peut l'imaginer. Alors, on est obligé de faire un peu la part du feu quand on étudie les hérésies du IIIe siècle, je mets hérésies entre guillemets, il y en avait certaines d'entre elles, nous allons voir, qui étaient authentiquement des hérésies. Mais il y en avait aussi qui étaient des mouvements de réaction profondément évangéliques. Le montanisme, qui a eu lieu à la fin du IIe siècle, et en fond, ce n'est pas une hérésie d'étudier dans notre chapitre sur le IIIe siècle, en fin de compte, puisque ce n'était pas très loin du IIIe siècle, est un de ces mouvements de réaction. À sa tête, montant, nous en avons parlé, un évêque qui était un ancien prêtre de la déesse Cybèle, qui s'était converti au christianisme, donc un homme qui n'était pas un enfant de chrétien, mais qui avait vraiment découvert la foi chrétienne, et qui, par conséquent, avait fait une rencontre authentique et réelle avec Dieu, qui s'était vraiment converti, qui avait rencontré le Christ, et qui était vraiment choqué, étonné de voir l'état du christianisme tel qu'il le rencontrait autour de lui, alors que lui s'attendait à voir des gens comme lui, qui mettaient le Seigneur à la première place dans notre vie, rencontrer une église mondanisée, rencontrer une église... où il y avait, comme le disait Duplessis, des petits-fils de Dieu. Alors, il a réagi. Il a réagi à plusieurs niveaux. Tout d'abord, parce que dans l'église dont il était l'évêque, en Phrygie, une soirée plus importante avait lieu, et dans les moments de prière, il avait une vie de prière intense, et tout naturellement, si je dis, dans ce contexte, les dons d'esprit, les dons charismatiques ont réapparu, spontanément. Et les personnes, les chrétiens qui étaient groupés autour de mon temps, fait le rapprochement avec les charismes qui sont décrits dans l'Évangile. On n'est pas si loin encore de l'âge apostolique, et le charisme n'est pas quelque chose qui fait problème. Le charisme n'est pas quelque chose qui apparaît comme extraordinaire. Le charisme est là, on l'accueille, on le reçoit d'une manière tout à fait spontanée. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu, en particulier en l'entourage de mon temps, de femmes qui ont pris une trop grande part au niveau de la prophétie notamment, et que mon temps a reconnu comme prophétesse. Et ça a été son erreur, c'est ce qui a conduit à discréditer le mouvement. Mais en dehors de ces excès qui ont conduit, là c'est le moins sa perte à la fin, les premières années du réveil montaniste, parce que c'est un véritable réveil de la sanctification et un véritable réveil de l'esprit qui a eu lieu autour de mon temps. Les premières années du réveil montaniste ont été profondément spirituelles, profondément saines. Il y a eu la restauration de toutes les bases de l'Évangile. D'abord, restauration des ministères. Montan s'est bien rendu compte que ce que l'on était en train de voir s'instituer dans l'Église était loin d'être conforme à l'Écriture sainte, et tout naturellement, tout spontanément, encore une fois, on n'était pas loin de l'âge apostolique, et en tout cas à l'époque de la Didaké, où il y avait encore les ministères, eh bien, Montan a confié les responsabilités à des gens qui avaient été mis à part par le Seigneur, marqués du sceau du Saint-Esprit, pour remplir ces ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de tout ce qui est cité dans Éphésiens 4. Spontanément, ce sont des choses qui ont été redécouvertes et retrouvées. Et ce faisant, évidemment, les problèmes ont commencé pour les montanistes, parce qu'ils se dressaient automatiquement contre la hiérarchie catholique telle qu'elle était en train de se mettre en place. C'était une remise en question de la structure de l'Église telle qu'elle apparaissait à la fin du IIe siècle. Deuxièmement, les montanistes ont redécouvert la sanctification sur laquelle on était en train de lâcher pas mal, comme nous l'avons vu. Et face à ce laxisme qui caractérisait l'Église de la fin du IIe siècle, du IIIe siècle, les montanistes ont rétabli une discipline extrêmement stricte, parfois un peu trop d'ailleurs. Par exemple, en ce qui concernait, se poser à cette époque-là, le problème que nous connaissons aujourd'hui, le problème du divorce. Pour les mêmes raisons que nous. Parce que devant le nombre des chrétiens qui se convertissaient, beaucoup étaient en situation irrégulière. Alors on avait le choix, ou bien refuser le baptême à monsieur le sénateur un tel parce qu'il était marié avec une femme divorcée ou autre, et en même temps se priver de la respectabilité que ce monsieur aurait apporté dans l'Église ou l'argent qu'il aurait apporté, ou bien alors être plus souple par rapport à ce que l'Évangile nous demande. Et dans la plupart des cas, on avait choisi la deuxième solution, on avait choisi d'assouplir ce que dit l'Évangile. Montan, sur la question du mariage, a réagi d'une manière très ferme. Pour lui, il est revenu à ce qui était écrit. D'abord au sujet des ministres d'Évangile, ministres du culte, dont certains étaient déjà dans des situations irrégulières, mari d'une seule femme. Montan a réinsisté sur ce texte de la première épître de Paul à Timothée, et ensuite pour le peuple tout entier. Et ce faisant, Montan a même allé trop loin, puisqu'il a interdit le remariage même des veufs, des veufs, ce qui est allé au-delà de ce qui est écrit. Mais pour vous dire à quel point, n'est-ce pas, les montanistes étaient conscients d'être engagés dans un combat contre la déviation et le laxisme qui caractérisait l'Église catholique. Autre réaction montaniste, c'était sur le domaine de la foi. La foi, ou l'Évangile qui était prêché dans ces milieux-là, était un évangile très intellectualisé, nous l'avons vu. C'était l'époque des grandes écoles, théologique, l'école d'Alexandrie, l'école d'Antioche, l'école de Carthage, de Rome, etc. Et on pensait au travers des philosophies des catégories philosophiques grecques beaucoup plus qu'au travers de la simplicité de l'évangile. Et Montan, lui, s'est rendu compte que là, il y avait un autre évangile qui était en train d'être prêché. Il a balayé tout ce fratras de philosophie grecque et il est revenu à la simplicité de l'évangile, insistant sur la foi et sur l'expérience à laquelle la foi devait conduire. Beaucoup plus que sur une connaissance intellectuelle dont se gargarisaient beaucoup des docteurs de l'époque, y compris d'un certain nombre de gens qui aussi se convertissaient. Car n'oublions pas encore une fois le contexte que nous évoquions il y a un instant, l'Église atteignait maintenant les couches de l'aristocratie romaine. Et aristocratie au point de vue social, au point de vue argent, mais également aussi au point de vue intellectuel. Et il s'agissait de présenter l'Évangile comme avec des attraits intellectuels tels qui faisaient que ces gens qui se piquaient d'intellectualisme pouvaient trouver leur compte. Mais ce faisant, n'est-ce pas, l'Évangile n'était plus accessible au petit peuple, pour lequel il était pourtant d'abord destiné. Alors Montan est revenu là-dessus. Montan est revenu sur la prédication d'une foi, d'un évangile dans sa simplicité, comme diraient les pentecôtistes aujourd'hui. Et en cela, il était un véritable pentecôtiste, si j'ai oublié. Voilà. Autre réaction également, c'était sur tout ce qui concernait la hiérarchie. Montan affirmait que les églises, les communautés locales devaient être autonomes et être liées les unes aux autres par des liens fraternels. Comme c'était le cas, jusqu'au début du IIe siècle en tout cas, et tel comme c'était le cas à l'époque des apôtres. Ce faisant donc, il prenait de plein fouet l'évolution qui était celle de l'Église de son temps. Alors, évidemment, ce qui devait arriver n'a pas tardé à se produire, à savoir qu'en 160, Montan a été condamné par un synode régional des églises de Frisie. Il a été condamné parce que sa doctrine se répandait un peu partout et que nombreux étaient ceux qui pensaient que Montan avait prêché un évangile beaucoup plus pur, beaucoup plus conforme à l'évangile du Christ que le faisait la majorité de ceux qui représentaient alors l'Église. Et en 170, Rome a confirmé la condamnation de Montan. Et c'est alors que un véritable schisme a eu lieu dans l'Église. Les montanistes ont été exclus, excommuniés, etc. Mais ça n'a pas empêché leur progression. Ce qui, encore une fois, a été le talon d'Achille du montanisme, c'est que le mouvement prophétique a pris beaucoup trop d'ampleur et il y a eu des déviations dans le domaine prophétique. Sur le plan prophétique, il y a eu des déviations. Il y avait un autre point sur lequel les montanistes étaient revenus aussi, c'était sur la question du retour de Jésus-Christ. À partir de la fin du IIe siècle, on cesse d'attendre le retour de Jésus-Christ. D'abord parce que, bien que quand même presque deux siècles maintenant qui sont passés depuis que Jésus est reparti au ciel, et qu'on se dit, ma foi, que deux siècles c'est un peu long, et que dans le fond ça pourrait encore bien durer longtemps. Et puis troisièmement, parce qu'après tout on n'est pas si mal que ça sur la terre, et que les affaires d'église vont pas trop mal, l'église progresse, et ce serait pas mal après tout qu'on ait un petit temps devant soi pour que l'église ait le temps de s'installer confortablement. Et l'espérance du retour de Jésus disparaît au IIe siècle. L'Église se structure non plus pour attendre le retour de Jésus-Christ, mais pour durer, pour s'installer dans le monde et pour devenir une puissance dans le monde. Et Montan a très très bien compris cette évolution-là. Il a compris combien cette évolution était contraire à l'enseignement de Jésus-Christ sur la question de son retour et comment au contraire l'Église devait être étrangère sur la terre. Par conséquent, Montan, lui, réaffirme le retour de Jésus-Christ et le règne millénaire de Christ. En ce faisant, Montan revivifie les doctrines des kyriastes, c'est-à-dire des millénaristes que l'on avait commencé à combattre à partir du IIe siècle et qui, à la fin du IIe siècle, à force d'avoir été persécutés, avaient presque disparu. Et par conséquent, l'espérance du retour de Jésus-Christ, avec le réveil du Saint-Esprit qui caractérise le montanisme, retrouve un second souffle, ce qui est normal dans tout réveil. Chaque fois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, on redécouvre les choses essentielles de la foi, ce que Montand avait redécouvert, c'est-à-dire l'importance de l'expérience avec Dieu, l'importance de la foi, l'importance de la sanctification et l'importance du retour de Jésus-Christ. Ce sont toujours les points qu'on retrouve dans tous les réveils. Alors, il y a tous les éléments, tous les ingrédients pour être condamné comme hérétique par une Église qui elle-même est hérétique déjà sur ces points-là. Ce n'est pas Montand qui est hérétique, c'est l'Église qui l'est. Mais il est certain qu'il y aura un point sur lequel Montand ne pourra pas se défendre, c'est les déviations prophétiques. Ces deux prophétesses en particulier prophétisent à tort et à travers n'importe quoi. Et au lieu de mettre de l'ordre à ce niveau-là, Montand les encourage. Il est lui-même complètement dominé par ces deux femmes, en qui il voit des femmes qui parlent de la part de Dieu et tout ce qu'elles disent est parole de Dieu. Au lieu de juger les prophéties de ces femmes, il se laisse totalement circonduire par elles. Et au bout d'un temps, ce que ces femmes racontent est tellement farfelu que le mouvement est lui-même discrédité. Et c'est extrêmement dommage, parce qu'il y a donc une fois quelque chose de très juste et de très vrai. Mais le montanisme va connaître un second souffle, comme nous l'avons dit, vers l'an 200, au moment où Tertullien, l'évêque de Carthage, le grand docteur de l'école de Carthage, donc un latin, un homme qui est de culture latine, et non plus grecque, comme les pères précédents, adopte le montanisme, se rend aux arguments de Montand. Et se met à prêcher ce que Montand prêchait. Ce que prêche Tertullien, c'est ceci, l'autorité de la vie. Déjà, à cette période, elle commençait à être contestée au profit de la tradition. Tertullien revient à l'autorité de la vie. Deuxièmement, Tertullien lui-même fait l'expérience des charismes, notamment des charismes de prophétie. Et dans les églises de Carthage et d'Afrique, on se met à exercer des charismes, on se met à voir des malades être guéris par l'imposition des mains, on se met à recevoir des prophéties. Troisième point, redécouverte, comme l'avait fait Montand, de l'espérance du retour de Jésus-Christ. Donc c'est un authentique et véritable réveil qui secoue l'église de Carthage. Tertullien lui-même reconnaît que la hiérarchie telle qu'elle est en train de se mettre en place n'est pas biblique, mais qu'il faut revenir au ministère don. Et cette vision des ministères don conduit aussi la redécouverte d'une autre notion, c'est la notion de l'Église spirituelle invisible. Les montanistes et Tertullien reconnaissent que l'Église telle qu'elle existe de leur temps, est composée d'une grande partie de païens, que l'on appelle chrétiens. Et que par conséquent, ces gens-là ne peuvent pas prétendre faire partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que la véritable Église de Jésus-Christ? Eh bien, disent les montanistes, la véritable Église de Jésus-Christ, elle est invisible. C'est Dieu seul qui la connaît. Et elle ne se confond pas avec l'Église visible. Parce que cette église est une église spirituelle. Et les montanistes introduisent une notion pour la première fois depuis Saint Paul, c'est qu'ils font la différence entre ce qu'ils appellent les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. C'est-à-dire finalement, on peut dire, de manière très simple, entre ceux qui ont fait une véritable expérience avec Dieu, qui marchent avec Dieu, les authentiques chrétiens et ceux qui ne le sont pas mais qui se disent chrétiens. Qui apparaissent comme étant des chrétiens charnels. Autrement dit, la tendance du montanisme, c'est de revenir à la notion d'église de professants. Hélas, les chrétiens qualifiés de charnels n'apprécient pas beaucoup ce qualificatif et ils réagissent auprès des autorités de l'Église, qui se rendent compte qu'il y a là effectivement un danger de voir un clivage s'opérer à l'intérieur de l'Église. Et comme déjà on a à cette époque-là la hantise de l'unité, eh bien Tertullien aussi va être condamné. Et Tertullien, jusqu'à ce jour, est considéré comme une sorte d'hérétique par les catholiques. Autre chose importante aussi, petit détail en tout cas, qui est en tout cas intéressant de noter, c'est que dans les doctrines des montanistes, il y avait aussi le refus des ornements, des bijoux pour les femmes, hein, des toilettes recherchées, et le port du voile pendant les réunions. Chose qui avait été abandonnée aussi par l'Église du 2e et 3e siècle et que les montanistes retrouvent. Et là, nous voyons finalement que quand l'Esprit de Dieu souffle, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même évangile, que ce soit au 2e siècle ou que ce soit au 20e siècle. Finalement, la parole de Dieu n'a pas changé et le Saint-Esprit reconduit toujours dans les mêmes chemins, dans les mêmes voies. Les montanistes sont pratiquement éliminés, mais une deuxième hérésie va apparaître, cette fois-ci au milieu du 3e siècle, au moment de la persécution de Décius. Vous savez que les persécutions sont bien sûr des moments privilégiés pour des mouvements spirituels, sains ou non d'ailleurs. Ou bien alors, il y a vraiment des réveils qui naissent dans la persécution, ou bien des hérésies et déviations. Et c'est ainsi qu'apparaît, au moment de la persécution de Décius vers 250, ce que les catholiques considèrent comme une hérésie, et qui l'est en partie quand même, c'est ce qu'on appelle l'hérésie novatienne, les novatiens. Le promoteur de cette hérésie est justement Novatien, qui est un homme qui réagit peut-être au départ, du moins ce que disent ses adversaires, mais c'est toujours pareil, c'est sujet à caution, tout ça, parce qu'on n'a rien des écrits de ces gens-là. Mais en tout cas, il a été prêt d'occuper le trône impérial. Puis au dernier moment, ça ne s'est pas fait, un autre a été élu à sa place, et ses adversaires disent que par dépit, n'ayant pu obtenir le trône impérial qu'il convoitait, Novatien a réagi en divisant l'Église. Allez savoir ce qui est juste là-dedans, c'est extrêmement difficile de dire, parce qu'on ne sait pas exactement ce que Novatien lui-même disait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la raison du schisme, c'est le problème des relapses. Le problème de ces gens qui ont apostasié au moment de la persécution de Jésus, et qui, la persécution terminée, veulent revenir dans l'Église. Novatien n'est pas d'accord sur la réintégration trop facile à son gré de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que finalement, Novatien reprend tout simplement ce qu'avaient été les arguments de mon temps. En disant, nous avons affaire à une Église qui est mondanisée, à une Église qui a baissé le niveau de la sanctification à un niveau tel qu'il n'y a plus de différence entre l'Église et le monde, et il faut que nous revenions maintenant à une discipline stricte. Et Novatien va donc organiser des églises, après avoir été excommunié en bonne et due forme, il va organiser des églises à partir justement de sa vision d'une église, quasi une église de confessants, mais en tout cas une église de laquelle dans laquelle pour en faire partie, il faut se soumettre à une discipline conforme à l'Évangile, sur un certain nombre de points. On a moins de détails sur lui que sur Montan, mais il semble que finalement le mouvement novatien soit la suite du mouvement des montanistes, une résurgence du montanisme en fin de compte, avec peut-être les dons spirituels en moins. Mais en tout cas, sur le plan d'un retour à une pureté de la foi, à une sanctification qui avait quasiment disparu dans l'Église. Alors, là, la lettre a été beaucoup plus chaude que pour le montanisme, parce que c'est tout de même un mouvement qui a persisté jusqu'au 7e siècle. Et l'Église officielle l'a combattu par tous les moyens. Et à ce niveau-là, on peut déjà s'arrêter pour noter un détail intéressant, c'est que quand l'Église catholique nous serine que avant la Réforme, l'Église était une, que c'était l'harmonie parfaite sous la houlette du successeur de Pierre, nous nous rendons compte que c'est faux. Dès le départ, n'est-ce pas, il y a eu des mouvements qui ont été en dehors de l'Église officielle. Et dont certains, comme nous voyons ici, se sont maintenus pendant un certain nombre de siècles. Et nous ferons une deuxième remarque, c'est l'extraordinaire capacité de l'Église catholique pour digérer tout ça. L'Église catholique est prête à attendre des siècles jusqu'à ce que les choses se résolvent d'elles-mêmes. En effet, le problème est le suivant. C'est qu'au 7e siècle, comment ont disparu les Novatiens? Tout simplement parce que ceux qui étaient membres de ces églises-là n'étaient plus motivés comme l'étaient les premiers. Ils étaient Novatiens parce qu'ils étaient nés physiquement ou spirituellement dans ces églises-là, mais ils ne se situaient plus par rapport à l'Église officielle en réaction contre ce qui avait été la cause de la réaction novatienne. Si bien qu'au 7e siècle, ils se sont dit qu'après tout, bien, leur existence en tant qu'Église séparée n'avait plus de raison d'être. Et petit à petit, sans bruit, sans grande déclaration, ils ont réintégré l'Église officielle. Et nous nous rendons compte qu'avec l'œcuménisme aujourd'hui, c'est exactement la même manœuvre que l'Église catholique est en train de tenter au sujet des églises qui sont issues de la Réforme. Beaucoup d'églises issues de la Réforme ne se situent plus non plus dans le courant de la Réforme du XVIe siècle. Elles ne voient plus leur raison d'exister en tant qu'églises séparées, si ce n'est sur certains détails, questions de la Vierge ou des questions comme cela, comme disait un pasteur récemment, un pasteur réformé. On voyait que la question de la Vierge Marie qui m'empêche d'être catholique. Autrement, je serais catholique. Alors, on voit encore un 2 siècles, et c'est exactement le calcul de l'Église catholique, et tout ça se résorbera de soi-même. C'est pas si vieux que ça, la Réforme, en fin de compte. C'est pas le 16e siècle, c'est moins vieux que les églises novatiennes. En tout cas, ça durait moins longtemps jusque maintenant. Et comme disait un vicaire général, M. Villem, nous avons tout le temps. Nous avons tout le temps, nous pouvons attendre. Des siècles, s'il faut, nous attendons. Alors, voyez-vous, c'est très intéressant d'étudier l'histoire de l'Église dans la perspective de ce qui se passe aujourd'hui. Autre réaction, cette fois-ci, que nous trouvons au début du 4e siècle, ce sont les donatistes. Bon, les donatistes apparaissent cette fois-ci après la persécution de Dioclétien, la dernière persécution. Et pour les mêmes raisons, et sur les mêmes bases, c'est-à-dire, encore une fois, sur la question des apostats, des relapses. Coïncidence, ils apparaissent à Carthage, en Afrique du Nord, là où justement a eu lieu, un siècle plus tôt, le réveil de Tertullien. Ça commence par un tumulte dans l'église de Carthage, au moment où on veut réintégrer en grande pompe un certain nombre de gens comme cela. Et le mouvement se propage en Afrique et au-delà. Qu'est-ce qu'il y a ? Après Dioclétien, oui. Après la persécution de Dioclétien, oui. L'église, sur ses entrefaites, a lieu les 10 000 ans, c'est-à-dire l'église devient l'église officielle, là j'anticipe un petit peu sur le siècle suivant. Et immédiatement, on voit comment l'église de persécutée est très vite passée à persécutrice. Les autorités de l'Église, qui viennent juste d'être reconnues par l'empereur, demandent à l'empereur d'engager une persécution contre les novatiens, contre les donatistes. Voyez-vous, ça n'a pas tardé. Hein. Seulement, Constantin, lui, a refusé de lancer la persécution. Et c'est pourquoi les donatistes ont été préservés. Ils ont subsisté jusqu'à la conquête musulmane aussi. Et là, c'est quand même la conquête musulmane qui leur a apporté le coup de grâce. Quelle est leur doctrine? Eh bien, on retrouve aussi les mêmes éléments qu'on trouvait dans les deux mouvements précédents. Une discipline stricte pour revenir à une église qui soit un peu plus conforme à ce que le Nouveau Testament nous dit d'église. Et le mouvement passe d'abord, selon ses promoteurs, par une réforme du clergé. Le clergé qui, lui aussi, est drôlement mondanisé à cette période-là, qui ne rêve que de pouvoir, d'argent, etc. Et les donatistes n'acceptent de reconnaître comme évêque, comme on dit, vérifier à cette époque-là que les gens qui se conforment à un certain nombre de critères, qui sont des critères souvent essentiellement bibliques. Et en particulier, ils refusent systématiquement tous ceux qui ont mal à partir avec l'État. Les donatistes se rendent compte que l'État est en train de pénétrer l'Église par toutes sortes de moyens et qu'on va vers une alliance entre l'Église et l'État, et c'est cette alliance-là qu'ils refusent. Au moment, bien entendu, de l'édit de Milan, eh bien, ils rompent carrément avec l'Église précisément sur cette question-là. Parce qu'eux, ils ne veulent pas être contrôlés par l'État, ils veulent que l'Église soit totalement indépendante de l'État. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs que Constantin les ait protégés, justement, alors que précisément ils avaient cette doctrine. À côté de cela, ils ont des points faibles. Par contre, un autre point positif qu'il faut signaler, c'est que ce sont des gens qui accordent une grande importance à l'engagement personnel, à la foi personnelle. Et en cela, donc, ils sont dans la mouvance et le courant des deux mouvements précédents. Par contre, ils ont la doctrine erronée des sacrements qu'on commence à voir dans l'Église, c'est-à-dire le sacrement ex opere operato. Et en particulier, ils appliquent ce sacrement aux enfants. C'est l'idée, vous savez, que l'enfant, donc né dans le péché originel, a besoin d'être purifié du péché originel, et que le sacrement du baptême ôte le péché originel et le fait naître de nouveau. Donc la doctrine catholique classique, telle qu'on la trouve encore de nos jours, qui est professée par ces gens-là. Il est tout à fait intéressant aussi de voir que l'Église, n'ayant pu abattre le mouvement par l'intermédiaire du bras séculier, va s'efforcer d'une autre tactique, s'efforcer de le récupérer. Et elle va créer un certain nombre d'ordres monastiques qui vont professer la doctrine donatiste. Et ce faisant, l'Église va réussir pour la première fois ce qu'elle va multiplier dans la suite de son histoire avec un succès qui ne s'est jamais démenti, à savoir que chaque fois que naît en son sein un mouvement de réforme qu'elle ne peut pas abattre, mais qui risque de la mettre en question, eh bien, l'Église, plutôt que d'attaquer de front le problème, lui accorde une place bien circonscrite dans un ordre monarchique. Si bien que toutes les âmes d'élite qui ne se contentent pas de la vie spirituelle médiocre qui est celle du vulgus pecus peuvent trouver, en entrant dans les ordres, la possibilité de vivre une vie spirituelle d'un autre niveau, sans pour autant remettre en question la piété populaire, comme on dit, et ce faisant, la base et l'autorité et le pouvoir de l'Église. La première fois qu'on assiste à ce phénomène dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas la dernière. Finalement, on retrouvera ça à toutes les époques. Et qu'avec la réforme du XVIe, que ça n'a pas marché. Ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé. On a essayé de proposer à Luther une démarche de ce type, d'autant que lui-même était un ancien moine. Luther a refusé. Mais pour ce qui est, par exemple, de François d'Assise, ça a été la démarche totale, admirablement réussie. Donc, avec les donatistes ici, c'est ce qui s'est produit. Il y avait cette idée aussi parmi les donatistes qui étaient hérétiques, c'est qu'ils pensaient qu'on pouvait naître chrétien. On n'était pas amené à se convertir obligatoirement. Face à toutes ces hérésies, l'Église va réagir. Et ça va être l'apparition du catholicisme. Le catholicisme, tel que nous le connaissons au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, naît pour se préserver de ces hérésies, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, des mouvements de réforme. Donc c'est un système qui est réellement mis en place pour étouffer la voie du Saint-Esprit, pour empêcher la remise en question par le Saint-Esprit. Et là, au long du troisième siècle, à plus d'une reprise, le Saint-Esprit a essayé de souffler dans cette Église pour la ramener dans une vision plus évangélique. Et à chaque fois, les choses ont été étouffées. Et à la fin du siècle, on a mis en place un système pour empêcher à l'avenir l'émergence de tout mouvement de réforme. C'était le but. C'était le but. Ces mouvements de réforme que l'on qualifiait d'hérésie. À côté de ces mouvements de réforme, il y a eu deux véritables hérésies. Je n'en citerai qu'une. C'est l'hérésie de Sabellius, qu'on appelle le sabellianisme. Parce que cette hérésie, on la retrouve de nos jours, notamment dans certains mouvements de Pentecôte. C'est une hérésie qui prétend nier la Trinité. À l'époque, on ne parlait pas encore de Trinité. La notion de Trinité n'apparaîtra qu'au siècle suivant. Mais néanmoins, à partir du IIIe siècle, on commence à se poser la question de la nature du Fils de Dieu, la nature de Jésus. Qui était Jésus ? La question de sa divinité se pose parce qu'elle est mise en question par un certain nombre de gens, notamment par les Ariens, qui vont apparaître à cette période-là, et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, c'est pourquoi je ne m'étends pas. Mais également, à partir du moment où Jésus est Dieu et de nature divine, quelles sont ses relations avec Dieu le Père ? Et voilà la question qui va, la grande question qui va être la question du IVe siècle en particulier. Et un certain nombre de gens vont répondre d'une manière fausse à cette question. Je citais les Ariens, mais il y a une autre, il y a l'opposé des Ariens. Les Ariens, c'était des gens, comme nous aurons l'occasion de voir, pour lesquels Jésus n'était qu'un homme. Il n'était pas d'essence divine. Donc le problème était résolu. Et puis, les sabellianistes, au contraire, allaient à l'autre extrême. Eux disaient, Jésus-Christ est Dieu et c'est le seul Dieu. Il n'y a pas de Père. Le Père, ça n'existe pas. C'est Jésus. Alors, répondaient les adversaires de Sabellius, mais pourquoi la Bible nous parle-t-elle de Dieu auquel Jésus s'adresse comme à son Père? Et les sabellianistes disaient, eh bien c'est tout simplement différentes formes que Dieu a prises. Au commencement, Dieu existait à l'état de pur esprit, et à un moment, le Dieu unique, qui s'appelle Jésus, s'est incarné, il a pris une chair humaine, et il est venu dans l'apparence d'un homme. Mais c'était le même Dieu. Et après l'ascension, ce Dieu a repris sa forme première, c'est-à-dire sa forme de pur esprit. Donc il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un même Dieu, il y a un seul Dieu qui prend des formes différentes. Alors, évidemment, c'était une hérésie, parce que bibliquement ça ne tient pas. Il est clair que le Fils et le Père sont des personnalités différentes. Et c'est tout à fait intéressant de voir que ce genre d'hérésie réapparaît de notre siècle, en notre siècle, disais-je. Par exemple, le mouvement Pentecôte, qui a commencé au début de notre siècle, qui a connu une croissance extrêmement rapide aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Norvège, en Égypte, etc., a été bloqué. Disons dans les années 30, par l'hérésie sabellianiste qui a soudain ressurgi. Certains se sont mis à professer cette hérésie, et les églises pentecôtistes nouvellement créées, qui étaient souvent des églises qui, comme les églises montanistes un peu, n'avaient pas trop d'assise doctrinale, étaient centrées sur les dons de l'esprit, etc., sur la prophétie et tout, eh bien, ont été déchirés par l'hérésie sabellianiste. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Ils ne savaient pas que c'était l'hérésie sabellianiste. Ils n'avaient jamais lu, ils n'avaient jamais fait l'histoire de l'Église. Ils ne savaient même pas qu'il y avait eu un certain Sabellius qui, avant eux, avait professé ça. Mais soudain, ils ont eu cette idée. Pourquoi? Parce que les hérésies, c'est pareil, ça a le sujet avec le temps. L'arianisme apparaît aujourd'hui avec les témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui ignorent qu'il y a eu un certain Arius qui a professé ça avant eux. Voilà. Bien, c'est la même chose avec le sabellianisme. Et cette guerre entre unitaires, comme on les appelait, on ne les appelait pas sabellianistes, on les appelait les unitaires et trinitaires, au sein du mouvement Pentecôte, a bloqué l'expansion du mouvement Pentecôte. Ça a été stoppé net à partir de ce moment-là. L'expansion du mouvement Pentecôte dans le monde. En tout cas aux États-Unis, enfin, en Amérique, etc. Alors, aujourd'hui, on en trouve. Dernièrement, ça fait une dizaine d'années, les églises de Pentecôte françaises avaient eu des problèmes avec cette hérésie-là. Dans la pratique, ça se traduisait essentiellement par le fait que les tenants de l'unitarisme, comme on les appelait, qu'on appelait les Jésus seuls. Pourquoi ? Parce que leur slogan, c'était Jésus seul. Hein ? Prétendaient qu'il fallait être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, était une hérésie grave, et qu'il fallait se faire rebaptiser au nom de Jésus seul. D'où le nom qu'on leur donnait, Jésus seul. Et leur missionnaire se prévalait de l'autorité d'un homme comme William Branham. Je ne sais pas si vous avez parlé de William Branham, qui fut un homme de Dieu remarquable par bien des aspects, un des pionniers du mouvement de Pentecôte aux États-Unis, un grand homme de Dieu qui était évangéliste un peu comme Osborne, mais un homme beaucoup plus sérieux qu'Osborne, qui ne se serait jamais permis ce qu'Osborne se permettait sur le plan de l'argent, sur le plan de l'orgueil, sur le plan de choses de ce type, n'est-ce pas ? Et qui a été en bénédiction pour une foule de gens. C'était un homme qui avait des dons spirituels très, très, très importants, notamment il avait la possibilité, parfois, lorsque Dieu lui donnait la révélation, de... il disait aux gens, n'est-ce pas, dans votre vie, il y a telle chose qui ne va pas, que vous devez vous mettre en ordre avant d'être guéri, etc., etc. Et c'était vrai, sans qu'il rencontre la personne pour la première fois, il pouvait lui dire, il y a telle chose qui ne va pas dans votre vie, vous avez fait telle chose en tel moment, etc. On cite plusieurs résurrections de mort qui ont eu lieu dans son ministère également. Et puis, William Branham, qui était un évangéliste et un prophète, par la suite, c'est que le docteur, ou du moins, on a voulu. On lui a demandé des questions sur la doctrine, alors qu'il n'était pas docteur. Ce n'est pas tellement de sa faute, si je vous dis. C'est parce que ceux qui l'entouraient n'avaient pas une vision des ministères, et parce qu'il était un homme de Dieu d'une telle envergure, ils ont cru qu'il pouvait répondre à toutes sortes de questions. Et William Branham a adopté l'unitarisme, donc le sabellianisme. Quoiqu'il n'ait jamais été très virulent dans ce domaine-là, par exemple, il collaborait facilement avec Billy Graham, qui, comme on le sait, lui est trinitaire de manière très forte, n'est-ce pas ? Collaborer avec d'autres comme ça qui étaient. Mais ensuite, n'est-ce pas, après sa mort, les unitaristes l'ont vraiment récupéré. Quoi, hein. Et maintenant, c'est leur prophète, c'est leur docteur. Bien qu'il y ait deux mouvements unitaristes aujourd'hui en Europe et dans le monde, il y a les branhamistes et les anti-branhamistes. Alors, les anti-branhamistes, ça dit bien ce que ça veut dire. Les branhamistes croient que Branham est le prophète des derniers jours, l'Élie qui devait venir avant le retour de Jésus, et que dans le fond, il faut absolument écouter tout ce que Branham a dit. Alors il recopie pieusement ses cassettes, et puis alors chacun est invité à méditer sur les choses que Branham a dites, qui sont considérées comme un deuxième évangile, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Même si par ailleurs, moi, je reçois de temps en temps, il y a des choses très intéressantes dedans. Parce que pour une fois, Branham était malgré tout un homme de Dieu. Mais. Ceci étant dit, il y a eu des problèmes il y a une dizaine d'années encore dans le mouvement Pentecôte. À cause de cela, dans certaines églises, des groupes relativement importants de personnes s'étaient fait rebaptiser au nom de Jésus seul. C'était le cas notamment en Belgique, où là, l'alerte a été vraiment sérieuse. Et puis, ça s'est plus ou moins estompé, mais rien ne dit que ça ne reviendra pas dans les temps qui viennent. C'est pourquoi il est quand même important d'être un petit peu au clair, de savoir que ce genre d'hérésie-là existe. Alors, en face de cela, disais-je tout à l'heure, l'Église catholique s'est structurée et a réagi. Ça, on verra ce que la suite.